1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Grand Tour. Vous écoutez Canal B, Yann avec vous pendant 1h, 17h, 18h, comme tous les jours du lundi au vendredi. On va parler avec deux artistes, Sarah Luc et Marine Bouillou aujourd'hui. Et puis vous entendrez un extrait de notre disque d'or de la semaine. Marine Bouillou, elle, vous propose une exposition à voir à la galerie Pictura à Cesson-Sévigné du 4 mars. Vernissage ce mercredi à 18h30 et jusqu'au 16 avril. Et Sarah Luc, elle, a posé son atelier éphémère, l'atelier de Sarah, du côté du centre commercial Colombia, juste à côté du FACT, le centre culturel colombier. On commence directement avec le groupe berlinois Super Chéri et leur première EP Wow Wow. Ça a commencé pour une des musiciennes du groupe en projet solo. Et puis depuis décembre 2023, c'est un groupe de garçons, de filles, avec quelques ambiances post-punk, un peu garage, assez groovy sur certains morceaux, comme le morceau qu'on va écouter pour débuter aujourd'hui l'émission, Get Alive par Super Chéri. Bonne émission. La page culture de l'émission Le Grand Tour aujourd'hui, eh bien on va rencontrer deux artistes, Sarah Luc et puis Marine Bouillou. La première est accompagnée par le FACT, le Centre Culturel Colombier, pour une belle aventure où elle va aller utiliser eh bien, des objets de récupération. Elle travaille dans un système d'économie circulaire qui est à la fois écolo, politique et dans son cas aussi esthétique. Et puis tout à l'heure, nous parlerons avec Marine Bouillou qui, elle, s'intéresse plutôt eh bien, aux formes géométriques, aux couleurs, et propose une exposition à la galerie Pictura du côté du Pont des Arts à Cesson-Sévigné du 4 mars au 16 avril. Mais d'abord, on va retrouver Sarah Luc. Bonjour Sarah.
Bonjour Yann.
La dernière fois qu'on t'a rencontré sur Canal B, c'était lors d'une résidence à la bricole solidaire Emmaüs-Terre à Chevigné. Vous pouvez d'ailleurs écouter sur canalb.fr le reportage de Julie Beaufils dans l'émission 3 en 1 du 3 novembre dernier. Aujourd'hui, on te retrouve à Rennes, dans un endroit peut-être plus surprenant encore. Je sais pas. Il se tient où exactement ton atelier éphémère ?
Je suis avec toi actuellement au centre commercial Columbia à Rennes. Il s'agit d'un atelier éphémère. C'est un projet qu'on a monté ensemble avec le centre culturel du FACT. En parlant du projet avec donc l'équipe du centre culturel, on a développé l'idée de créer un lieu de rencontre avec un public varié. Et en parlant, parce qu'au tout début, on s'est dit peut-être on peut faire des choses dans la cour du FACT. Et en parlant, on s'est dit tiens, pourquoi pas contacter le centre commercial. Et donc voilà, donc un partenariat s'est créé et ils m'ont mis en disposition une cellule au cœur du centre commercial. Et donc voilà, qui est occupée en ce moment en partie où on peut voir l'exposition, des choses que j'ai déjà fait, une bande de matières avec lesquelles je travaille, donc on va revenir après, et une partie atelier. L'idée, c'est vraiment que ce soit comme mon atelier qui est ouvert, où les gens puissent tout le temps passer, voir, participer en m'apportant des matériaux, et participer à m'aider, à me donner des coups de main. Et puis, il y a des moments d'atelier un peu genre sous inscription qui sont gratuits, ouverts à tout le monde. Et l'idée, c'est de m'aider à poncer, à couper, à peindre, à m'aider à développer des structures qui vont faire partie de mon exposition. Ça, ça va être vraiment c'est évolutif. Pendant les 2 semaines, avec les moments plus constructifs que d'autres. Il y a des moments aussi où ça va avancer, ça va, enfin, comme dans un atelier, des fois on fait des tests de peinture, peut-être on ne va pas forcément les utiliser, mais voilà. Et l'idée c'est vraiment d'avancer vers l'exposition. Et après les 2 semaines au centre commercial, j'aurai encore 2 semaines dans mon atelier personnel pour finaliser tout ce qui a été fait pendant les 2 semaines ici. Je trouve ça intéressant de sortir un peu de mon contexte et d'être en déplacement. J'ai déjà occupé une cellule au centre commercial Tourigné, en face de l'hôpital Sud, mais c'était déjà un centre commercial abandonné et on nous a demandé d'occuper les cellules pendant une période. On peut voir une partie, une exposition des choses que j'ai déjà réalisées. On peut voir des peintures, des collages, des sculptures, les couleurs translucides, les couleurs transparentes, du bois, du béton. On peut tout n'importe quoi parce que, en fait, je travaille avec des matières, des récupérations un peu précises. On va revenir dessus. Ensuite, on voit un quart de l'atelier, plus ou moins, c'est un stockage de matériaux. L'idée, c'est que les gens puissent passer pour m'apporter des choses, tout ce qui est un peu fluo, translucide, etc. Et ensuite, ben, on est entouré de... On peut voir aussi mon atelier, un coin où il y a voilà, un peu des croquis, une sorte de brainstorming, des petits dessins que j'ai faits. On peut voir aussi une grande table avec plein de chaises parce que l'idée, c'est que les gens puissent passer, participer à l'évolution de mon exposition.
Ils viennent d'où ici les matériaux et les objets que tu vas utiliser sur cette résidence ?
Il y a beaucoup de choses qui viennent des anciennes résidences, comme par exemple la Pricole solidaire, aussi de la Belle Déchette. Il y a aussi des choses que j'ai ramenées d'autres projets, parce que là, c'est tout un cycle de projets en partenariat avec des ressourceries que j'ai faites. Donc, il y a des petits bijoux de Emmaüs Granville, aussi Ricro Prada, une ressourcerie à côté de Toulouse. C'est vraiment au fur et à mesure des projets, j'apporte une sorte de bande de matière. Il y a aussi un socle d'une ancienne exposition du FACT. Et le Centre Columbia donc, m'a ramené dans. J'ai eu la chance, ils m'ont ramené dans le coin déchets de Columbia. Et du coup, il y a aussi des choses qui m'ont donné.
Il est possible pour les participants, les participantes à ces ateliers, parce que tu accueilles du public qui met la main à la pâte, il est possible qu'ils t'apportent des objets. Alors, il est précisé sur le site fact.fr qui recense cet événement que tu adores les couleurs vives et fluo. Alors, est-ce qu'on t'en a amené beaucoup des objets qui correspondent à ces critères ? Et puis déjà, est-ce que les participants sont venus avec des objets ?
Il y a des gens qui sont venus avec des objets. Ça commence. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour. Il y a des petites choses qu'on m'a apportées. Et en effet, il y a pas mal de fluo dedans. Et il y a aussi des choses un peu que je ne vais pas forcément utiliser. Parce que c'est vrai que moi, je prends un peu tout, mais je ne travaille pas non plus avec tout n'importe quoi. Donc, je fais une sorte de sélection. Ce qui n'est pas grave parce que je mets des choses à côté et ça peut être utilisé dans d'ateliers avec des gens ou des dons. Voilà. Et je pense, peut-être, c'est aussi très étonnant de venir dans un centre commercial où on donne. Et voilà, je pense que c'est ça qui est très rigolo, de faire un switch dans la tête des gens.
Tu favorises le réemploi, tu utilises pratiquement uniquement des objets de récupération et on est dans un temple de la marchandise et d'objets neufs.
Oui, c'est ça qui est rigolo, mais c'est ça aussi qu'on aime bien dans l'idée. C'est justement de créer des ponts entre le monde d'art contemporain, des centres culturels comme le FACT, le centre commercial et aussi par exemple la Pricole solidaire et la Belle Déchette, ces deux institutions, ils m'ont fait des prêts de matériaux et de mobilier aussi pour occuper cette cellule. Et du coup, j'aime bien aussi cette idée de parler de ces lieux-là, qui je trouve très important localement, d'en parler de ces endroits-là dans un centre commercial.
Qui sont ceux et celles qui viennent te filer un coup de main, justement ?
Il y a un peu de tout. Et c'est justement ça qu'on avait envie. En fait, il y a tous les âges, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des habitués du centre commercial, il y a des habitués qui travaillent souvent en bénévolat avec le FACT, il y a aussi des gens un peu du milieu artistique, des amis artistes qui peuvent passer, et puis il y a des passants qui sont qui passe. Il y a par exemple une personne qui fait le ménage dans les couloirs. Il me ramène tous les jours des petits bijoux qui traînent par ici, dans le couloir.
Comment tu travailles avec ces assistants et assistantes du moment ? Est-ce qu'ils sont là et elles sont là pour seulement te donner un coup de main technique ou est-ce que tu acceptes aussi des conseils esthétiques ?
C'est un peu le deux parce que ça, c'est vraiment une expérimentation la première fois pour moi parce que j'ai pu faire des ateliers où les gens font un peu ce qu'ils veulent. C'est un peu plus directif parce que c'est un peu mon exposition. Mais du coup, j'expérimente de jusqu'où il y a la liberté de gens de faire ce qu'ils veulent ou jusqu'où je donne un peu des directives. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a un peu tout. Il y a eu, par exemple, le premier jour, quelqu'un qui dessine, un dessinateur. Il s'est assis dans son coin à faire ses propres dessins. Donc, ça n'a pas forcément aidé, mais ça aide dans l'idée, c'est aussi de faire un moment de partage. On s'approprie un peu comme on veut. Il y a eu des enfants qui ont décoré une colonne en forme un peu totem. Et du coup, c'est des moments très, très chouettes aussi. Pas sûr que je l'expose en tant qu'elle, mais je garde l'idée, je fais des photos et puis c'est vivant. Il y a un peu tout n'importe quoi.
Je m'appelle Léo. Ma maman et ma soeur étaient allées le lundi pour commencer à préparer des matériaux. Et du coup, je suis venue pour découvrir. Voilà. Il y avait déjà des morceaux de bois. On a dû les poncer et puis j'ai décidé de mettre des bandes d'adhésif pour cacher et après j'ai peint et du coup ça fait des lignes de peinture.
Là, je suis venue avec ma fille lundi, on a fait un peu un atelier improvisé où on a aidé à préparer des matériaux qui vont être utilisés pendant tous les prochains jours. Donc on a vu déjà des choses qui ont évolué, on a vu une colonne l'autre jour brute et là ça y est, elle est déjà travaillée. Donc on verra à l'atelier, à l'exposition là, ce que ça donnera un peu plus tard. Et puis là on est venu effectivement travailler du bois, poncer, peindre et puis on verra ce que ça donnera sur l'exposition finale. On regarde déjà ce qui a été exposé et puis c'est sympa de faire un atelier collaboratif et de faire ça en famille. C'est aussi un point positif de récupérer et puis là elle a déjà eu pas mal d'apports donc c'est chouette.
Et on va terminer cette petite discussion avec des participants à l'atelier de Sarah, avec Timéo. Bonjour Timéo.
Bonjour.
Toi, tu es venu quand pour la première fois ici à l'atelier ?
C'est aujourd'hui. J'ai pu travailler du plastique, peindre, découper, limer.
Et est-ce que tu avais une idée de ce que c'était une artiste qui fait de l'art contemporain ?
Oui, vu que j'avais déjà vu ses œuvres dans un autre endroit.
Et qu'est-ce qui te plaît dans le travail de Sarah Luc ?
C'est n'importe quoi, mais c'est beau.
Tu peux me décrire précisément une des œuvres qu'il y a derrière nous, là ?
Il y en a une avec de la pierre, du bois et du verre. C'est ma préférée.
Est-ce que tu peux nous parler de ton travail artistique, de l'économie de moyens qui est mise en œuvre ? Parce que c'est quelque chose qui est constant chez toi en fait, c'est pas juste pour cette résidence-ci.
Non, alors ça fait très 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 longtemps que je fonctionne de cette façon. Donc c'était toujours un choix à la fois esthétique, parce que la feuille blanche m'effraie plus qu'autre chose. Et du coup, je préfère me baser sur des choses déjà existantes. Et puis, en effet, aussi sur le côté logique, parce que je trouve ça plus intéressant de puiser dans le banc de données des choses déjà existantes qui nous entourent et de questionner déjà comment ils nous parlent et qu'est-ce qu'elles représentent pour nous et de les explorer d'une autre façon. Et voilà. Donc, c'est ça, c'est déjà une raison. Et puis, il y a une autre, c'est aussi que pour moi, ça a toujours été important de créer des ponts. Et de créer des ponts avec des personnes aussi qui ne sont pas toujours forcément en lien avec de l'art. Et d'utiliser des parpaings ou des briques, des choses de chantier, de fin de chantier, ça m'intéresse aussi pour dire que de contacter un peu les personnes qui ne sont pas forcément en lien avec de l'art en intégrant des objets du quotidien comme ça.
Et est-ce que tu te vois comme une artiste écolo ?
Oui, et puis aussi parce que je renforce vraiment les liens aussi avec les groupes de il y a des engroupements de récupération il y a ça un peu à Rennes, ça se développe un peu sur ceux qui travaillent plus à scénographie et ça fait très longtemps, enfin je trouve ça hyper intéressant de se mettre en réseau, de faire circuler les matières et de vider son stockage dont on n'a pas besoin parce que c'est ça qui est vachement intéressant je trouve et ça crée aussi des liens et c'est beaucoup mieux pour la planète.
Oui, parce qu'en fait, ce qu'on pourrait trouver dans une déchetterie, toi, en fait, tu vas t'en servir carrément.
Oui, et même ce que j'ai dit l'autre jour encore, c'est ce qui est un peu drôle. Donc, chacun sa carrière. Moi, ma carrière, je la vois dans le fait qu'au tout début, je faisais vraiment les tours de fin de chantier, autour des déchetteries. Donc j'étais vraiment dans les coins de déchetteries et tout ça. Quand on m'a apporté ici au Centre Columbia, dans la réserve de ce qui va être donné à la déchetterie ici, je me suis dit, j'ai quand même fait un sacré chemin. C'est une expérimentation pour tout le monde. Le fait, comme moi, ce qu'on adore vraiment là-dedans, c'est l'idée de vraiment, je redis le terme pont, mais je trouve que c'est vraiment hyper important parce que c'est vraiment l'idée de rendre en contact avec des personnes qui ne sont pas forcément en lien avec de l'art. Et voilà, donc ma manière de le faire, c'est à travers des matières et des formes et des couleurs. Moi, je trouve ça hyper intéressant et j'ai carrément envie de continuer dans cette voie parce que ça fait tout sens pour moi. Et le fact, il fait déjà aussi d'autres projets qui vont vers le public. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant.
L'exposition sera organisée à l'issue de la résidence. Tu as encore une période de résidence. On la retrouve où et quand au fact?
Ce sera au Centre culturel du fact du 26 mars. Le jeudi 26 mars, il y aura un vernissage à 18h30 et elle sera en place pendant 2 mois.
C'est réalisé en partenariat avec le Centre commercial Columbia, la Bricole solidaire Emmaüs Terre à Chevigny, la Belle Déchette à Rennes et puis le soutien du géant des Beaux-Arts, sans oublier évidemment le soutien de la DRAC. Merci beaucoup Sarah.
Merci à toi.
C'était un titre choisi par Sarah Luc qu'on écoutait à l'instant, le groupe Lebanon Hanover avec le morceau Kunst. Toutes les infos autour de l'atelier de Sarah sur saraluc.com et fact.fr. Je mets les liens bien sûr sur la page Le Grand Tout sur canalb.fr. Merci à Léo, Odile et Timéo, les compagnons pour quelques heures de Sarah dans cet atelier qu'elle vous propose jusqu'au 7 mars. Nous poursuivons cette émission Le Grand Tout, spécialement consacré au travail de deux artistes plasticiennes. Tout à l'heure, c'était Sarah Luc qui nous parlait de cet atelier éphémère jusqu'à la fin de la semaine du côté de Columbia. On va parler maintenant avec Marine Bouilloux. Salut Marine.
Bonjour Yann.
Très bonne amie de Sarah Luc, hein, je le précise. Et là, on va parler d'une exposition peut-être un peu plus conventionnelle. Oui, elle se déroule dans une galerie, la galerie Pictura à Cesson-Sévigné. Ça se tient au Pont des Arts, le culturel que vous connaissez forcément. On va parler de cette exposition qui a lieu à partir de ce mercredi, du 4 mars jusqu'au 16 avril. Une expo que je n'ai pas vue et pour cause, elle n'est pas encore tout à fait montée. Mais j'avais quand même envie de vous faire rencontrer Marine et de vous donner envie d'aller au vernissage qui a lieu mercredi à 18h30. Le travail de Marine Bouilloux, vous le connaissez forcément si vous êtes rennais depuis quelques années parce que on le retrouve aussi bien dans la ville, une fontaine du côté de l'avenue Maginot par exemple, on le retrouve aussi sur des murs d'école, un peu dans l'espace public, et puis là on est dans une galerie donc tu ne peux pas transposer les peintures murales pour les faire voir, mais tu vas montrer une palette de ton travail. Alors on va commencer peut-être par deux œuvres que je connais de toi, que j'ai pu voir dans un portfolio que tu as bien voulu m'envoyer, avec pour commencer eh bien cette ritournelle. On est dans une œuvre vibrante, c'est souvent le cas dans ton travail, des couleurs assez fortes, mais un peu de camailleux aussi pour venir adoucir ou renforcer ces couleurs-là. Assez vif, souvent. Et celle-ci, elle est rose, blanche et rouge. Et puis on y voit comme des petites billes comme ça qui se déplacent dans ce qui semblerait être un organisme vivant. Alors, est-ce que c'est dans le cerveau? Est-ce que c'est dans notre deuxième cerveau? Les intestins, je ne sais pas. En tout cas, je trouve qu'elle représente pas mal ton travail. C'est pas celle-là que tu as choisi hein, comme carton pour cette exposition. Parle-nous un petit peu de Ritournelle, qui est une œuvre assez récente, 2023, même si on va évoquer des œuvres plus récentes, dans un travail sans cesse en mouvement, en fait. Cette Ritournelle-là, elle vient d'où exactement?
Alors, c'est une peinture qui appartient à une série autour de la couleur rose, puisque souvent je travaille par gamme colorée, parce que chaque couleur transmet une énergie particulière. Et c'est un magenta, donc le magenta c'est un rouge de quinacridone. C'est le, à l'école primaire, on utilise souvent cette couleur de rouge magenta que j'ai dégradé. Donc c'est une lumière qui vient se dégrader, comme tu l'as dit, autour d'une forme circulaire qui peut faire penser à une petite bille ou à un rond. Et ce petit rond, il se balade en forme de grappe. Et c'était pas du tout prévu, mais en effet, ça peut rappeler une forme organique, comme un intestin à l'intérieur du corps. Et j'aimais bien ce rapport souple et organique, puisque comme je travaille beaucoup la géométrie, parfois je me sens trop contrainte aussi par la mesure. Donc là, c'est un tableau qui évoque un mouvement interne.
Ton travail, il est vraiment dans une constante assez minimalisme, même si la tendance un petit peu à sortir de cette règle-là. Comment tu le vois, ton travail, toi ? Comment tu le définis quand on te demande ouais, tu fais quoi comme peinture, Marine ?
Depuis une quinzaine d'années, je travaille autour de l'abstraction. J'aime beaucoup la liberté qu'on peut trouver en manipulant des formes abstraites et des couleurs, puisque ça peut parler aux tout petits comme aux très vieux, différents âges de la vie. Et puis dans plusieurs cultures, en fait, il y a des occurrences à l'abstraction, que ce soit, moi j'ai beaucoup regardé la peinture des femmes Ndébélé, qui sont une ethnie d'Afrique du Sud, la peinture aborigène également, qui a différentes significations, puisque nous en tant qu'occidentaux, on peut le lire comme un élément purement décoratif, or pas du tout, puisque pour les aborigènes, c'est une traduction de leurs rêves, qui peignent au sol, et on retrouve des cartes géographiques, des éléments du paysage, comme la faune, la flore, des serpents, des cours d'eau, bref. Et bien sûr, dans l'art géométrique, l'art minimaliste, on retrouve aussi le recours aux formes abstraites, rigoureuses, construites. Et donc, si on me demande de décrire mon travail, ce qui peut paraître surprenant, moi j'ai commencé par faire de la peinture figurative. Donc pendant 15 ans, j'ai peint autour de sujets géopolitiques, dans un style un peu comics, BD, dans un registre narratif. Et c'est un moyen de critiquer le monde, les rapports Nord-Sud, etc. Donc c'était très bavard comme peinture. Et puis petit à petit, ce travail, il a évolué. Progresser, il y avait déjà un grand intérêt pour la musicalité et les couleurs. Et j'ai vu une exposition en 2000, je vais dire des bêtises là, 2000, oulala, ça remonte, alors je ne sais plus quand, en 2000, j'allais dire 18, mais pas du tout, c'était bien avant, 2008, voilà, disons 2008, ça. C'est ça, de Bridget Riley, qui est une représentante de l'art optique, une artiste, une grande artiste britannique, au Musée d'Art Moderne de Paris. Et là, j'ai vraiment eu un flash, ça peut arriver parfois, hein, une espèce de syndrome de Stendhal, et je me suis dit, c'est là où je veux aller, puisque c'est une représentante de l'art optique et elle travaille des peintures sur toile, mais aussi de grandes peintures murales. Et le fait d'être immergée comme ça dans la couleur, dans les formes, d'avoir un rapport très sensitif finalement à la peinture, je me suis dit que j'avais envie de sortir du châssis, de l'objet traditionnel lié à la modernité, en histoire de l'art aussi, et d'aller vers un art finalement qui se retrouve dans l'espace public ou qui s'est retrouvé pour une partie de mon travail dans l'espace public plus tard.
Cet art optique dont tu parles, l'art optique, l'art cinétique, c'est des choses qui apparaissent dans les années 1950-60 ?
Oui, vers les années 50-60, avec plusieurs polarité géographique. D'abord en Amérique du Sud, il y a eu plusieurs artistes comme Soto, Cruz Diaz qui ont abordé la couleur, l'optique. Donc, et ensuite l'art cinétique, qui est autre chose que l'art optique, c'est rechercher du relief dans le plat mais en deux dimensions. Et l'art cinétique, c'est rechercher une illusion de mouvement mais avec une ingénierie. Donc il y a des machines, il y a des moteurs souvent dans l'art cinétique. Un kinésis, c'est le mouvement. Et donc ces deux mouvements de l'histoire de l'art, oui, m'ont influencé, mais plutôt l'art optique, en effet, puisque c'est à plat, ça ne bouge pas. Et ce que j'aime particulièrement dans l'art optique, c'est donc Bridget Riley m'a beaucoup influencé, et des artistes comme Soto ou Cruz Diaz aussi pour le rapport à la couleur. Mais à la base, c'est un art politique aussi, qui était dans la rue et qui s'adressait à tout le monde. Donc il y a un côté populaire finalement qui me convient aussi, parce que j'aime bien le côté où dans l'abstraction, on peut à la fois s'adresser à des éléments qui peuvent être très intellectuels, hein, et très pensés, très construits, mais aussi à quelque chose de sensitif qui est de l'ordre de l'instant, de l'émotion et sans background culturel.
Tu disais que ce que tu faisais il y a quelques années était peut-être un peu plus bavard. Est-ce que tu vois tout de même encore une continuité, tu le disais sans doute, un propos politique aussi finalement, puisqu'il s'adresse à tout le monde dans ce que tu fais aujourd'hui.
Alors d'une certaine manière, oui, ce n'est sans doute pas lisible, mais pour moi, oui, puisque c'est de l'ordre poétique aujourd'hui, ce travail sur la couleur et la forme qui s'adresse au sens. Et la poésie, enfin, vouloir ramener de la poésie dans la vie, pour moi, c'est très politique, puisque j'ai l'impression qu'on vit dans une société où de plus en plus, on essaye d'éliminer la poésie. En ce sens, ça rejoint la politique de chercher la poésie.
En tout cas, il y a dans ton travail, évidemment, ce côté vibrant, des couleurs vibrantes et vraiment au sens strict, j'ai l'impression que ça bouge quand même un petit peu, alors que non, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de moteur, et que c'est vraiment une illusion optique qu'on a peut-être. Et un côté très ludique aussi, alors ça s'adresse à toutes et à tous. J'ai envie qu'on parle un petit peu maintenant de cette œuvre-là qui, moi, j'ai entre les mains le carton de cette exposition qui aura lieu, hein, je le répète, du côté de la galerie Pictura à partir de mercredi. Et c'est un extrait, un fragment hein, d'une œuvre beaucoup plus grande en fait. Et on retrouve la même couleur finalement que sur Ritournel. La couleur d'ailleurs du pull que tu portes aujourd'hui. Hein. Elle vient d'où celle-là ? Canva, elle s'appelle.
Puisqu'on est à la radio, je vais essayer de décrire pour les auditeurs et auditrices. C'est une peinture qui fait à peu près 1,20 m de haut sur 40 cm de large et qui est volumétrique puisqu'elle est sur une épaisseur de 7,5 cm exactement. Et donc j'aime bien pouvoir peindre la face et les côtés pour qu'on aborde l'entièreté du tableau. On peut être amené à circuler autour. Il y a un rapport architectural aussi en ce sens. Et Canva, donc c'est un motif, en effet, toujours dans cette période où j'ai travaillé autour du rose. C'est un motif qui se déploie et qui vient se tricoter d'une certaine manière. Et il y a toujours cette idée dans mon travail de flow. Donc le flow, c'est le fait de répéter une activité qui peut être de l'ordre du tricot ou de la musique aussi, mais une activité en continu, hein, ou comme la danse soufie aussi, on peut atteindre cette forme de flow.
Et là, tu es vraiment en train de faire des mouvements circulaires avec ta main
avec
en
ma
parlant.
Main, voilà. Et quand on s'adonne voilà, à une activité répétitive, à un moment, il y a une perte, on oublie. Et dans cette perte, on peut trouver justement de la poésie ou quelque chose qui était imprévu. Moi, je travaille de manière très artisanale et ça me prend beaucoup de temps. Souvent, les gens pensent que je réalise mon travail sur ordinateur. C'est vrai qu'il y a une forme de minutie ou de perfection qui peut être effrayante aussi. On en parlait tout à l'heure, puisque c'est très maîtrisé. Ce que j'aime bien, c'est aussi chercher l'imperfection dans quelque chose qui, a priori, paraît maîtrisé.
L'accident, s'il existe, je ne suis pas sûr de le percevoir, en tout cas sur ce fragment de canevas.
Je travaille souvent avec des couleurs très saturées, une gamme de couleurs pures. Des couleurs saturées sont des couleurs très chargées pigmentairement. Et ensuite, je les dégrade pour travailler la lumière. Donc, je vais les dégrader avec du blanc en 5-6 valeurs différentes, donc c'est la dose de lumière qu'il y a dans la couleur, pour aller chercher la profondeur, parce que c'est une manière aussi de créer de l'illusion, de chercher la profondeur par le biais d'une couleur qu'on va dégrader. Et puis là, c'est comme s'il y avait deux plans, si tu observes, enfin pour les auditeurs et auditrices encore une fois, c'est un travail sur le motif, mais il y a deux voire trois plans dans cette peinture, et ça s'organise autour de deux tons magenta, donc dans les roses, avec des complémentarités de nuances de vert, un vert véronèse, qui est un vert que j'utilise beaucoup ces deux dernières années, et un peu de jaune. Et donc la surprise, absolument rien à voir, mais quand j'ai terminé cette peinture, je me suis dit... Ah mais finalement, ce sont des couleurs associées au reggae.
Alors que tu n'avais pas écouté du reggae en faisant cette œuvre-là.
Non, pas du tout. Mais bon, il y a de très bonnes choses en reggae aussi. Oui, voilà.
Alors c'est vrai qu'il y a une impression de profondeur parce qu'on a d'abord ce vert dans le fond et puis par-dessus des lumières un peu comme des lumières de phare comme ça et puis par-dessus encore ces formes circulaires qui font une forme un peu allongée. Comment toi tu vas faire naître une œuvre en fait ? À la base, tu as déjà une idée de formes qui vont se mélanger, de couleurs qui vont s'additionner ou se soustraire d'ailleurs. Qu'est-ce qui naît d'abord, la forme ou la couleur ?
Alors c'est souvent la couleur, en effet il y a ces deux paramètres, la forme et la couleur, mais je crois que fondamentalement je suis une coloriste, et d'ailleurs tu le sais, mais je donne des cours de couleur aussi en école d'art et des conférences sur la couleur. Hein, c'est vraiment mon sujet de recherche, la couleur, que j'aime transmettre. Donc c'est souvent la couleur qui va guider l'émotion, la sensation et l'intention. Donc je travaille par série colorée. Pendant 2-3 ans, je vais travailler autour d'une même gamme. Et puis après, je vais explorer d'autres gammes de couleurs, mais ça peut revenir 10 ans après. Donc là, pendant 2-3 ans, j'ai travaillé autour du rose. Là, je suis beaucoup en ce moment autour du bleu outre-mer, du jaune et du vert véronèse. Donc c'est d'abord la couleur qui va guider l'idée. Et ensuite, la forme, puisqu'il y a des familles de formes aussi. Hein. On peut dire qu'il y a des formes anguleuses, issues du carré, du triangle, et des formes plus circulaires, plus sinueuses, plus organiques, plus souples, comme le rond, tout ce qui va être un peu spaghetti. Donc j'aime bien travailler à la fois sur le mouvement, quelque chose de... Souvent en abstraction, on parle aussi d'art dur et d'art mou. Et j'aime bien ce parallèle aussi avec des sensations. Ce qui est mou, ce qui est organique, ça rappelle le corps. Et puis ce qui est construit, ce qui est carré, ce qui possède des angles, ça va rappeler l'architecture peut-être, la construction, voilà, des formes qui s'imbriquent.
On parle avec Marine Bouilloux, hein, artiste plasticienne, à propos de cette exposition qui a lieu du côté de la galerie Pictura à Cesson-Sévigné, c'est au Pont des Arts. À l'instant, on écoutait la musicienne française, mais qui a vécu à New York, Lydie Mercier des Clous, le morceau Torso Corso, morceau que tu nous proposais. Et puis, on va parler un peu de musique quand même, parce que je sais qu'elle est importante. Alors là, c'est un morceau assez rythmé. Qu'est-ce qui t'influence en fait dans la musique que tu écoutes sur ton travail ?
À la base, j'ai un passé de musicienne amatrice. J'ai fait 10 ans de batterie, donc le rythme, c'est quelque chose de très important. Et de danseuse, puisque aussi en tant qu'amatrice, j'ai pratiqué la danse flamenca pendant 10 ans également. Donc il y a vraiment dans ces deux pratiques la notion de rythme. Au niveau musical, j'ai quand même été très influencée par le rock indépendant, mais aussi, et ça plus tardivement, mais par la musique minimaliste, comme Meredith Monk, Steve Reich, Philip Glass, Laurie Anderson et Moondog. Moondog, j'ai beaucoup écouté Moondog en travaillant.
Côté répétitif aussi.
Le côté répétitif.
Les rythmes et les
exactement.
Formes.
Exactement. Donc la musique minimaliste, moi je fais le parallèle avec l'art minimaliste aussi et l'art conceptuel. Aux États-Unis, des artistes comme Sol LeWitt qui m'ont beaucoup influencé, qui a aussi réalisé de grandes peintures murales sous forme de partitions. Hein. Il est décédé, mais maintenant son œuvre est à réinterpréter par des groupes de personnes qui vont missionner par, en quelque sorte, une forme d'agent en fait, de Sol LeWitt et qui accompagne des groupes d'étudiants en art ou autres à réaliser des œuvres de Sol LeWitt d'après ses partitions écrites. Et la musique répétitive, elle a une grande influence sur la peinture puisque je crois qu'il y a une même recherche, une recherche de... de flow, de rythme, de venir répéter des éléments, mais de venir créer aussi de la fragmentation, un rapport aux mathématiques et à la géométrie qui est très présent aussi dans la musique minimaliste, comment les choses reviennent et sont déformées, réinterprétées. Voilà, l'idée de réinterpréter, on parlait d'un tableau tout à l'heure qui s'appelait Ritournelle, mais c'est une idée de mélodie aussi, mais j'aime bien l'idée de quelque chose qui est assez obsessionnel et qui peut revenir très souvent comme une forme, une couleur, mais qui va apparaître différemment à chaque fois.
Ça fait une quinzaine d'années que toi, Marine, tu peins autour du travail de la perception visuelle, physiologique et psychologique, parce que voilà, les couleurs ont une influence sur nous. Cette exposition à la Galerie Pictura, elle montre des travaux qu'on a pu évoquer, hein, Canevas, Ritournelle, un peu plus anciennes qu'en quelques années, mais les choses beaucoup plus récentes aussi, qui sont, elles, peut-être un peu plus difficiles à lire, en fait. Moi, je connaissais un peu ton travail quand même de ce côté d'il y a quelques années, mais là, il y a un côté un peu plus, je dirais, brutal. Je sais pas, c'est peut-être exagéré, mais plus agressif aussi, les formes. Voilà, tu en parlais tout à l'heure des formes, elles évoquent chez nous des sentiments ou des sensations. Le triangle, forcément, ça pique. Et là, il y a les triangles sur ce que tu proposes maintenant. C'est quoi? C'est un changement psychologique ou le monde qui t'effraie, qui font que tu vas vers ces peintures-là? Là, j'essaye de psychologiser ta peinture. Je ne sais pas si j'ai raison, je ne pense pas, mais bon.
Alors, pourquoi pas, hein. Chaque interprétation est bienvenue. Mais non, de mon point de vue, c'était pas, il n'y avait pas du tout cette idée. Donc là, c'est une série nouvelle sur laquelle je travaille depuis un an. Et en fait, je suis partie d'une forme, parce que ces deux dernières années, j'ai réalisé un certain nombre de peintures murales dans des lieux, dans des écoles. Et là, souvent, quand je travaille la peinture murale, je fais des maquettes à un cinquième, un vingtième. Enfin, il y a ce rapport d'échelle du petit au grand pour projeter ce qu'on va faire dans l'espace. Et je travaille souvent sous forme de collage, c'est-à-dire que je commence une maquette, donc j'élabore une grille, je dessine une grille et ensuite j'insère des motifs qui vont se promener ensuite dans cette grille. Et après, je travaille avec du papier découpé, ce qui me permet d'opérer des changements un peu comme un puzzle ou de faire plein d'essais sur cette grille-là. Et là, j'ai travaillé une forme pour une récente peinture murale dans une école à Bois-Gervilly. Et cette forme, bien qu'elle soit très simple, elle m'a un peu obsédée. En fait, c'est un triangle équilatéral et sur chaque côté du triangle, on retrouve un demi-cercle avec une lumière qui vient se diffuser ou qui vient rayonner. Et puis ensuite, c'est refermé par un autre triangle. Donc c'est une forme qui s'emboîte et qui se transforme sans cesse. Donc à la base, c'était très intuitif. Je suis partie de cette forme et j'ai senti qu'elle allait me guider vers une série assez longue. Donc cette forme, je l'ai utilisée pour réaliser trois peintures qui font 1,50 m par 1 m, qui vont être présentées à Cesson. Et je présente à côté les maquettes et puis toute une typologie, toute une famille de travaux qui accompagnent cette recherche. Donc oui, c'est plus anguleux, comme tu le dis. Donc ce sont des peintures avec du bleu outre-mer, du vert véronèse et du jaune, un jaune japonais qui est mi-chaud, mi-froid. Et il y a un côté... Alors le jaune, c'est une couleur très aiguë, moi qui va me rappeler un crash de cymbales. Et le bleu outre-mer, c'est une couleur extrêmement enveloppante, qui est lumineuse tout en étant très sombre. Et le vert véronèse, c'est une couleur entre les deux, qui peut facilement se dégrader aussi. Donc j'aime bien jouer sur différents niveaux aussi, puisque la peinture, la couleur, ça évoque des sonorités. Donc il y a vraiment un rapport musical dans ce travail-là aussi.
À propos de Marine Bouilloux et de son goût pour la musique, je vous renvoie vers une sieste musicale que tu avais faite pour Canal B, autour du bleu d'ailleurs, il y a quelques années, elle est encore en ligne sur le site canalb.fr. Alors on voit effectivement que cette exposition à la Galerie Pictura va nous permettre de plonger vraiment dans la manière dont tu crées, avec l'origine, cette maquette, et puis les formats plus grands qu'on retrouve sur les murs. Tu pratiques surtout dans des formats assez grands.
En fait, je travaille du tout petit au très grand. À la base, j'avais un travail d'atelier pendant 10-15 ans. Et puis, en 2014, c'était la première fois qu'on m'a proposé de réaliser une peinture murale. Donc ça fait maintenant 12 ans que je réalise aussi dans l'espace public en grand format. Et j'ai pas de préférence, j'aime les deux. Puisque à l'atelier, le fait de travailler en tout petit, il y a un rapport vraiment poétique aussi. Je peux me déplacer. J'avais fait une résidence à la Friche de la Belle de Mai à Marseille en 2014, où j'avais loué un atelier à Astéride, qui est un lieu... qui est un lieu d'art, voilà. Donc là, c'était une résidence, mais où ils proposaient aux artistes de louer un atelier l'été. Donc c'était complètement autonome. Et là, j'ai bien aimé le fait d'aller à Marseille avec ma petite valise et de transporter mon petit papier Montval 300 grammes et mes peintures. Donc la peinture sur papier, le rapport intime, poétique du petit format, ça permet aussi de se déplacer ou de travailler dans un lieu fixe. Et la peinture murale, eh ben, ça permet en effet de se projeter, mais il y a toujours ce temps de toute façon préparatoire à l'atelier, où on est dans sa grotte, dans une boîte, et où on projette ce qui va être réalisé in situ. Donc j'aime vraiment les deux, et ça correspond aussi à des temps différents dans l'année, puisque l'hiver c'est plutôt le temps du travail à l'atelier, puisque quand on travaille à l'extérieur, on est soumis aux conditions météorologiques, et je dirais que... pour travailler en extérieur, c'est plutôt de mi-mai à début septembre, hein, pour que la peinture sèche bien. Ça correspond aux beaux jours aussi, l'idée de travailler à l'extérieur aux beaux jours, et c'est plutôt plaisant.
Tu vas aussi dans des établissements scolaires, grâce à cette éducation artistique et culturelle, qui permet, quand on est artiste, d'avoir d'autres moyens de subsistance. On n'a pas que des commandes qui permettent de faire des grandes peintures sur les murs de la ville, c'est sûr. Mais ça permet aussi de faire découvrir les pratiques artistiques aux plus jeunes. Et puis il y aura, je crois, des ateliers parents-enfants aussi à la Galerie Pictura. Comment tu vois ça, ce travail auprès des plus petits?
Je crois qu'à la base, comme beaucoup d'artistes, j'étais un peu isolée dans mon atelier, mais avec grand plaisir aussi. Hein. Il y a un côté solitaire à la peinture. Et puis petit à petit, donc après les Beaux-Arts, forcément, j'ai cherché des moyens de subsistance puisque je commençais à faire des expositions, mais c'est pas suffisant quand on est jeune artiste et même quand on est vieil artiste, voilà. Donc j'ai commencé à donner des cours de peinture, des cours de couleur, et puis des ateliers. Et puis plus ça va, plus la pratique s'affirme, plus en effet on se sent à même et à l'aise de transmettre et de travailler avec des groupes. Donc moi, je peux travailler avec des tout petits, comme des scolaires, comme des lycéens, collégiens ou des adultes. Donc en effet, à Cesson, ce qui va être intéressant, c'est comme c'est un équipement culturel, donc il y a la Galerie Pictura et juste à côté, il y a une médiathèque. Je vais proposer un atelier autour du livre d'artiste. Donc avec la médiathécaire, on a fait un choix de livres autour de l'abstraction, de la forme, de la couleur, puisque je m'intéresse beaucoup aux livres d'artiste aussi, que ce soit en illustration jeunesse et pas que, il y a des merveilles vraiment. Et donc je vais proposer aux personnes de fabriquer un Leporello, un livre accordéon, et ça, ce sera un atelier parents-enfants à la fin de l'exposition. Et également, je vais sans doute faire un atelier avec des personnes qui sont hébergées dans un EHPAD à Cesson-Sévigné. Donc là, ça va être la première fois que je vais travailler avec des personnes plus âgées. Et je trouve que c'est important aussi puisque je trouve que la société laisse pas beaucoup de place parfois aux personnes âgées. Et il y a plein de choses à créer via l'art.
Pour terminer cette discussion avec Marine Bouillou, tu as amené quelques-unes des photos, des œuvres qu'on verra sur les murs de la Galerie Pictura à partir de mercredi. Et on peut vraiment constater un changement progressif comme ça, avec de plus en plus de formes, de signes, de plus en plus d'informations dans cet espace de peinture que tu fais.
Le travail récent que je vais présenter à Pictura, c'est vrai qu'il a un côté peut-être plus fourni en motif. Moi, ça me rappelle un peu un mouvement italien, de design italien des années 80 qui s'appelle Memphis, avec des artistes comme Nathalie Dupasquier, Ettore Sottsass. Donc là, il y a aussi une typologie de formes. Il y a des formes anguleuses ou angulaires et des formes serpentins. Et puis, il y a le recours au noir et blanc également. Donc, il y a des formes de damier. Le noir et blanc, c'est un contraste polaire, c'est un contraste très fort visuellement. Donc, ça va apporter une dynamique, une rythmique, mais des choses aussi... plus forte. Tout à l'heure, tu parlais d'agressivité. Bon, c'est peut-être pas le terme que j'emploierais, mais
non,
en tout
fort,
cas,
oui.
C'est plus marqué. Donc là, ça s'organise autour de ces formes, en effet, qui, comme tu me le dis, sont peut-être plus chargées, je ne sais pas, mais plus marquées. Enfin, là, c'est vraiment du motif, en fait.
Mais est-ce que, justement, tu peux imaginer un travail qui serait le tien dans quelques années où il y aura encore plus, ou alors peut-être des motifs qui ne seraient pas plus nombreux, mais qui seraient plus petits. Enfin, si, qui seraient plus nombreux forcément, puisqu'ils seraient plus petits sur la toile ou sur le mur.
Bah alors ça, c'est difficile. Je ne sais pas du tout ce que je ferai dans plusieurs années. En tout cas, je suis persuadée que je travaillerai encore l'abstraction et la couleur, parce que c'est infini. Il y a plein de choses à explorer. Peut-être que je reviendrai aussi à un mélange d'abstraction et de figuration. Enfin, je pense que dans l'art, tout est très ouvert. Et ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de transmettre et de dire. C'est l'intention, c'est pas... Enfin, le moyen, il est toujours au service d'une intention. Non, je pense qu'il y a des choses pleines, le grand format où là on rentre dans la couleur vraiment, on rentre dans les formes. Par exemple, tu parlais du carton, de l'exposition, c'est un détail d'une peinture. Et quand je fais du grand format, je peux proposer soit de très grands détails, donc là il y a un rapport au corps aussi, on va rentrer dans la peinture. Et quand on est face à des motifs plus petits, plus fragmentés, ben, il y a un décalage, on est forcément à l'extérieur de ce qu'on regarde. Donc il y a vraiment ce rapport au corps à immersion ou distanciation. Je ne sais pas si c'est très clair.
Mais on peut bien comprendre.
Pas très joliment dit, mais.
Peut comprendre. En tout cas, qu'évidemment, ton travail va forcément subir ou vivre des évolutions, mais que bien malin qui pourrait dire qu'est-ce qu'il sera dans quelques années. Mais en tout cas, vous pouvez voir dès maintenant le travail que fait Marine Bouillou. Et aussi sur quelques années en arrière, il y a des choses qui remontent de quelle année jusqu'à aujourd'hui à l'exposition ?
Oh bah là, je pense que il y a des peintures qui remontent à 2019, même peut-être un peu avant, 2017, jusqu'à 2026, puisque j'ai fini il y a quelques jours seulement la dernière œuvre de l'exposition.
Allez voir donc cette exposition qui ne porte pas de nom. D'ailleurs, ça va être la dernière question. Pourquoi il n'y a pas de nom à cette exposition ?
Alors, pourquoi il n'y a pas de nom ? Parce que Morgane Le Gallic, donc, qui est programmatrice et qui m'a invitée à exposer à Galerie Pictura, m'a proposé ça il y a un peu plus d'un an. Et souvent, en termes de communication, il faut donner tous les éléments très tôt pour les programmes annuels. Et donc, il y a un peu plus d'un an, je ne savais pas sur quoi j'allais travailler. Je savais juste que je voulais montrer une partie d'œuvre ancienne et puis un nouveau travail. Et donc, je n'ai pas donné de nom parce que je voulais que ça reste ouvert. Et comme ça embrasse un large champ de mon travail, je trouvais ça bien de ne pas enfermer, de ne pas nommer aussi. Les œuvres ont des noms, par contre.
Oui.
Ça, c'est important.
Vous les verrez, ces œuvres-là, à la Galerie Pictura du 4 mars au 16 avril. Plusieurs moments dans la semaine pour visiter l'expo. Mardi et vendredi, 16h30-19h. Mercredi, 14h-19h. Et le samedi, en matinée, 10h-12h30. Vous retrouverez le lien vers le site de Marine Bouillou sur la page du Grand Tout que vous écoutez, qui va se terminer maintenant avec un morceau de Suzanne Ciani. J'ai pensé à ce titre-là, parce que ton travail m'a fait penser à cette chanson assez radieuse, assez lumineuse, assez douce et pourtant rythmée. C'est Suzanne Ciani et Jonathan Fitoussi. Merci beaucoup Marine. Vous avez l'occasion aussi d'aller voir l'atelier de Sarah jusqu'à samedi. Là, c'est du côté de la Galerie Commerciale Columbia. Merci.
Merci Yann. Something rustled on the floor.
and someone called me by my name. It had become a glimmering girl with apple blossom in her hair. Called me by my name and ran and faded through the brightening air. Though I am old with wandering,
c'était Suzanne Ciani et Jonathan Fitoussi à l'instant sur Canal B dans Le Grand Tout avec le titre Golden Apples of the Sun. Toutes les infos autour de l'exposition de Marine Bouilloux à la Galerie Pictura, c'est sur marinebouilloux avec un D.fr et aussi sur ville-cesson-sévigné.fr. On se retrouve mercredi pour une nouvelle émission Le Grand Tout sur Canal B. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! The golden.